carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Edith Cannacisi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes violoniste de formation et compositeur. Vous avez déjà écrit près de 70 opus, des pièces vocales et instrumentales où les cordes occupent une place de choix. On connaît de vous des concertos tels que Moira, concerto pour violoncelle, des quatuors tels que Vivere, un oratorio scénique, le tombeau de Gilles de Rais, et des pièces pour grand orchestre tels que Omen, créé en 2006 pour l'Orchestre National de France, et plus proche de nous dans le temps, Times, votre pièce pour grand orchestre créée pour le BBC Symphony Orchestra en 2009. Vous avez reçu de nombreux prix, dont le Grand Prix de la musique symphonique en 2004, décerné par la SACEM, et vous êtes la première femme compositeur à être reçue à l'Institut de France, puisque vous avez été élue membre de l'Académie des Beaux-Arts en 2005. Pour compléter cette présentation rapide, signalons également que vous êtes professeur de composition au Conservatoire National de Région de Paris. Edith Cannacisi, vous venez de sortir en 2011 un album intitulé Times, qui, contrairement au sous-titre indiqué qu'on ne comprend pas toute votre œuvre symphonique, mais 5 pièces, Times, La Ligne d'Ombre, Yel, Allio, qui signifie ailleurs en latin, et Omen. Alors, votre musique est composée de changements de rythme et de couleur dans un antagonisme vertical et horizontal très dynamique, et on évoque souvent la houle à propos de votre écriture musicale. Est-ce que cette alternance de calme et de violence qui se retrouve dans l'ensemble de votre œuvre caractérise, comme vous le souhaitez, votre œuvre en fait ?
Oui, c'est-à-dire que mon univers sonore, je souhaite qu'il soit toujours en mouvement. C'est pour ça qu'on fait souvent allusion à propos de ma musique à un univers maritime. C'est-à-dire que l'univers maritime, c'est un univers qui change tout le temps. Et de même, ma musique que je souhaite justement tout le temps dynamique, tout le temps en opposition, en rupture, justement en changement de tempi, en changement de couleur. Voilà, ça je crois que c'est effectivement ce qui caractérise ma musique.
Times, le nom de l'album, explore, comme son nom l'indique, les dimensions du temps. Également dans cet album, notre pièce pour orchestre, La Ligne d'Ombre, une des 5 pièces de cet album, explore aussi cet axe majeur qui est également un thème central de votre œuvre. Comment le compositeur que vous êtes travaille sur ce thème difficile ?
Alors c'est une question très importante depuis que je suis toute petite, cette dimension du temps, cette question sur le temps. Et j'aime beaucoup justement le suggérer dans ma musique, à la fois le caractère inexorable du temps par des ostinatos, le caractère aussi tout à fait impromptu des changements de temps, des changements d'atmosphère, et aussi ce temps suspendu qui peut suggérer justement ce temps qu'on peut appeler ce temps de l'ailleurs, ou ce non-temps qui peut suggérer une notion d'éternité. Voilà, cette notion du temps a été donc vraiment un questionnement pour moi. La durée aussi, sur laquelle je travaille très très précisément, les durées courtes, les durées longues. Voilà, ça fait partie vraiment d'un travail extrêmement précis.
Sur l'attente aussi.
Alors justement, La Ligne d'Ombre, ça c'est un travail sur l'attente, en relation justement avec la nouvelle de Joseph Conrad, qui lui aussi donc écrit vraiment tout le temps, enfin tout le temps dans un univers maritime. Hein. Alors donc on voit La Ligne d'Ombre qui est justement l'attente d'une tempête, c'est en fait un navire qui est engalminé, et qui attend une tempête inexorable et qui se manifeste à l'horizon par cette ligne d'ombre. Et par contre, quand on voit dans son roman Typhon, on voit aussi la violence donc, d'une mer déchaînée. Alors quand j'ai lu La Ligne d'ombre, effectivement, j'ai tout de suite eu l'idée de cette pièce d'orchestre qui est fondée sur cette dimension de l'attente, donc par des mouvements, enfin par des moyens très très précis, à savoir un travail sur le tempo métronomique. Ça commence très lentement, ensuite ça accélère de façon quasiment imperceptible jusqu'à cette déflagration.
Thank you.
Est-ce que vous pourriez nous décrire le début de Times qu'on vient d'entendre ?
Alors, Times, justement, c'est un ostinato, ce qu'on appelle un ostinato, c'est-à-dire un élément répété. Et justement, un élément répété avec un certain timbre qui correspond, à savoir des percussions. Et je voulais justement exprimer là, avec cette ouverture très spectaculaire, hein, justement ce caractère inexorable et très tragique du temps.
Et alors, dans l'album, il y a également Yell, qui est une de vos premières œuvres pour orchestre, écrite
c'est
en 1985.
C'est la première, voilà. Oui.
Vous l'avez écrite à un moment où vous portiez un grand intérêt à la musique acoustique. Alors, comment avez-vous intégré ou appliqué ces caractéristiques sonores-là aux instruments d'orchestre ?
Alors, c'était donc une époque, effectivement, où j'étudiais la musique électroacoustique. Musique électroacoustique, donc, c'est une musique sur bande. C'est-à-dire qu'on enregistre au préalable certains sons et ensuite, on les mixe ensemble sur plusieurs pistes, 4, 5, 6, ça peut être 7, enfin, etc. Et il en déroule ensuite toute une technique de composition qui est par exemple la mise en boucle, c'est-à-dire qu'on fait répéter un élément, qu'on incorpore justement à ce mixage. Ça peut être des incrustations, c'est-à-dire incrustations d'événements justement sur des pistes déjà mixées. Voilà, et donc j'ai été très très intéressée par ce travail-là, qui en fait ouvre beaucoup l'imaginaire, puisque dans ce travail-là, on est libéré de l'écriture. Donc on n'a pas les contraintes de l'écriture et on peut quasiment découvrir cet univers sonore en direct. Chose que quand on écrit à la table, il faut attendre que l'œuvre soit jouée pour vraiment la découvrir. Bon, bien sûr, on l'entend intérieurement, mais c'est quand même pas
pareil. C'est une grande émotion, j'imagine, pour le compositeur.
Tout à fait. Enfin, disons que plus on a du métier, plus cette distance qu'il y a entre ce qu'on a entendu dans sa tête et le résultat tend à se réduire. Malgré tout, il est absolument nécessaire aussi que le risque demeure. C'est-à-dire, on prend toujours un risque en écrivant quelque chose que ça ne sonne pas comme on l'avait entendu. Et il faut que ce risque demeure, parce que c'est ça qui stimule aussi l'imaginaire sonore. Dire, mais tiens, je vais essayer d'écrire ça et on va voir comment ça va sonner. Et quelquefois, on a des très, très bonnes surprises. Quelquefois, peut-être moins bien aussi, mais voilà. Ça, c'est une audace qu'il faut continuer à garder. Alors, pour revenir à cette expérience de la musique électroacoustique, j'ai cherché après, parce que bon, moi, je n'ai jamais été attirée par l'écriture proprement dite, enfin, par le travail proprement dite de la musique électroacoustique, tout simplement pour des questions techniques, parce que j'ai été très, très maladroite avec un travail sur les appareils studio. Je ne savais jamais sur quel bouton appuyer. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui me rebutait.
Le violon, vous allez mieux.
Oui, c'est pas
pourtant,
tout à fait pareil. Non. Mais par contre,
dire.
J'ai eu le désir justement de transposer ces techniques d'écriture à la musique acoustique, à la musique instrumentale. Et cette pièce Yell est vraiment un exemple du travail que je faisais à cette époque-là. Et pour moi, cette pièce d'orchestre est très importante parce que c'est une pièce qui m'a fait avoir le prix de la Tribune internationale des compositeurs de l'UNESCO, qui est un prix assez important. C'est-à-dire que c'était une œuvre enregistrée par Radio France, c'était l'Orchestre Philharmonique qui l'a enregistrée. Et elle a été donc choisie par toutes les radios du monde entier. C'est-à-dire que quand on a ce prix-là, l'œuvre est diffusée sur toutes les radios du monde entier. Donc on a non seulement des droits d'auteur, mais ça ouvre à une certaine notoriété. Voilà. Et par la suite, cette œuvre a été pour moi comme une matrice. Enfin, ça a été un peu la matrice des autres pièces.
Voilà. Parce qu'avant, vous étiez plutôt centré sur un travail de musique de concerto, de...
Non, pas du tout. C'est ma première pièce d'orchestre, mais disons que ça m'a encouragée à continuer dans cette voie-là. Et je vois que j'ai fait ce disque-là, justement, parce qu'il y avait donc 20 ans d'écriture, et notamment d'écriture pour orchestre. C'est-à-dire que ces pièces s'échelonnent entre 89 et 2009. Et je vois, bien sûr, avec une écriture tout à fait différente maintenant, mais cette première œuvre pour orchestre, elle reste encore en filigrane dans mon écriture. Thank you.
Quel regard vous portez justement sur ces 20 ans d'écriture ?
Ah bah d'abord, pour moi, l'écriture pour orchestre, c'est vraiment, pour moi, l'écriture qui me convient le mieux. Je me sens extrêmement à l'aise dans cette écriture-là. Je crois qu'avec les cordes et les voix, ce sont mes trois modes d'expression favoris. C'est toujours très, très émouvant de faire un disque comme ça, une sorte de rétrospective. Parce que justement, on voit le temps qui passe et on voit aussi le chemin. C'est pour ça que ce disque est fait sur le thème du chemin, d'ailleurs.
Avec une magnifique photographie
voilà,
qui invite...
Donc, on en parlera tout à l'heure à propos d'Omen, justement, ouais. Qui reprend ce thème du chemin. Et c'est toujours très, très émouvant d'avoir justement l'occasion de faire une rétrospective d'œuvres comme ça.
Alors justement, vous venez d'évoquer Omen, qui est la dernière des œuvres de l'album, mais qui a été écrite en 2006, qui est une pièce pour orchestre. Quel a été le point de départ ? Là aussi, c'est une œuvre qui a beaucoup compté pour vous.
Alors le point de départ, c'est tout simplement le fameux tableau de Van Gogh, enfin un de cette série, puisqu'il y en a écrit plusieurs, Les champs de blé avec corbeaux, que j'ai vu, bien sûr, évidemment, je le connaissais, mais je l'ai vu au musée d'Amsterdam. Et c'est quand même très différent de connaître un tableau par une reproduction et de le voir en réalité. Alors, ce tableau, qu'est-ce qui fait la particularité de ce tableau ? Il y a plusieurs choses. D'abord, c'est le mouvement. Je parlais du mouvement et de l'univers maritime tout à l'heure, mais ce qui m'a attiré, c'est le mouvement, à savoir le mouvement des blés, le mouvement des corbeaux qui tournent dans le ciel. Enfin, toute cette œuvre, tout ce tableau est en mouvement.
Il est très contrasté aussi.
Il y a
beaucoup de violence,
absolument.
De dynamisme.
Là, on sent le vent. On sent
c'est
le...
presque une vision maritime terrestre avec ces blés.
Oui,
et
bien sûr.
Ses...
Et voilà, donc ça a été la première chose. Et ensuite, le chemin. Le chemin qu'il y a dans ce tableau qui, précisément, ne mène nulle part. Et voilà, ça a été une des dernières séries que Van Gogh ait peint avant son suicide. Voilà, et ça a été le premier déclencheur. Et ce thème du chemin m'a amené pratiquement immédiatement à évoquer Heidegger.
Parce que vous avez une formation philosophique.
J'ai une formation philosophique, oui, j'ai donc une licence de philo, une licence d'histoire de l'art et une licence de philo. Et j'ai notamment suivi des cours avec Emmanuel Levinas à propos d'Heidegger. Heidegger a écrit un livre qui s'appelle Chemin, qui parle de la poésie de Rainer Maria Rilke. Et la particularité d'Heidegger, c'est d'élaborer une sorte de métaphysique de la poésie. C'est-à-dire, il dit, la poésie révèle l'être de l'étang, donc à la suite, évidemment, de la phénoménologie. Et pour moi aussi, enfin, à partir de là, je pense que la musique également peut révéler l'être de l'étang. Alors, toujours est-il que ces chemins, en fait, je me suis aperçu que ces chemins, je ne sais pas si c'est vrai, mais le titre de Heidegger reprenait en fait un poème de Rilke, Les Quatrains Valaisans, qui s'appelle Chemin qui ne mène nulle part. Chemin qui ne mène nulle part, entre deux prés, que l'on dirait avec art de leur but détourné, chemins qui souvent n'ont devant eux rien d'autre en face que le pur espace et la saison. Alors, les chemins qui ne mènent nulle part entre deux prés, c'est le tableau de Van Gogh. Voilà, donc il y a eu tout un faisceau de correspondances, peut dire, qui m'ont donné une première approche de cette œuvre.
Tout de suite, comme ça, ou c'était plus long ?
On n'écrit jamais tout de suite, parce que quelquefois, ça peut être très laborieux et très douloureux. Et voilà, mais je pense que effectivement, ça a été une grande aventure pour moi, ça. L'écriture de cette pièce a été vraiment une écriture qui m'a beaucoup marquée.
Vous vouliez ajouter autre chose sur Romaine ?
Peut-être sur cette dimension de l'ailleurs, effectivement, qui est aussi évoquée dans Le chemin qui ne mène nulle part. En fait, cette dimension de l'ailleurs, donc, est quelque chose qui m'a toujours préoccupée, vraiment depuis toujours. C'est sous forme de questions. Et c'est vrai que c'est une sorte de fascination pour ce qu'on ne connaît pas, pour ce qui nous dépasse. Et c'est aussi la principale motivation du fait que j'écris, de la création. Alors voilà, cet ailleurs, je le suggère, enfin je pense que la musique, comme toute autre forme d'expression artistique, mais plus particulièrement la musique, a le pouvoir justement de suggérer ce qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que toutes mes pièces ont un peu en arrière-plan cette question sur ce qui nous dépasse. Par exemple, j'ai mon dernier quatuor à cordes qui s'appelle « Proche invisible », c'est issu d'un vers de René Char. Voilà, j'ai beaucoup de titres qui suggèrent et aussi dans mon écriture qui suggèrent cette troisième dimension, on va dire.
Merci Edith Kanatsizi de nous avoir parlé de votre musique et dit l'importance justement de ce rapport entre la poésie pour vous, le sacré et la peinture aussi. Peut-être qu'il y a d'autres pièces qui ont été inspirées par d'autres tableaux, j'imagine.
Oui,
on n'a pas fait le tour. Et puis de nous avoir dévoilé, sans nous contraindre justement, de nous avoir suggéré votre vision de cet ailleurs qui nous dépasse et que vous évoquez si bien dans votre musique. Voilà, je signale aux auditeurs que l'ensemble de votre œuvre est édité aux éditions Le Moine.
C'est sur Le Moine.
Et qu'ils peuvent trouver l'album sous le label Eon.
Eon.
Ça s'appelle Times, c'est Edith Kanatsizi, c'est l'œuvre pour orchestre. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.